En avant la musique, bienvenue dans l'émission des musiques traditionnelles proposée par l'AMTA. Je vous espère en forme, bien décidé à profiter de votre dimanche, notamment à l'écoute de France Bleu Pays d'Auvergne. Alors aujourd'hui, c'est la fête des Juliennes, je crois que ça marche aussi pour les Juliens. Alors c'est une nouveauté aujourd'hui dans l'émission. Nous souhaitons une bonne fête aux Juliens et aux Juliennes. Il est un lieu vivant où vous pouvez prévoir de passer du bon temps, une journée entière si vous le souhaitez, tant il y a de choses à découvrir, que vous soyez enfant, jeune, en famille, retraité, chacun trouvera son compte, prendra plaisir à découvrir la grande famille des musiques populaires. Populaires comme les musiques traditionnelles, le musette, les fanfares, le rock, j'en passe et les meilleurs. C'est à Montluçon, c'est au musée des musiques populaires dit MUPOP. Qui mieux placé pour nous en parler qu'Éric Bourgognon qui en est le conservateur. Bonjour Éric.
Bonjour.
C'est comme ça votre titre conservateur?
Oui, tout à fait.
Ça n'a pas changé ça?
Non, ça n'a pas changé.
Parce que le musée de Montluçon a beaucoup, beaucoup changé. Mais
oui.
Le boss du musée, il s'appelle toujours conservateur.
Toujours.
Bon. Alors, nous, on a connu le musée de la Vielle de Montluçon. Ça a fermé pendant quelques années, vous allez nous dire combien. Et du coup, il a fallu ce temps-là pour maturer un très beau projet qui est ce MUPOP. Ça a pris combien de temps tout ça pour...
Alors, ça a pris 10 ans. Il faut 10 ans, c'est toujours ce qu'on dit d'ailleurs pour faire un musée, puisque d'abord il faut le concevoir, il faut imaginer son contenu, voir ce qui est possible, ce qui est pas possible, se confronter avec la réalité aussi bien financière qu'administrative, que scientifique, etc. Il faut rassembler les partenaires aussi, bien sûr, puisque ce sont toujours des projets qui sont un petit peu coûteux. Mmh. Et puis ensuite, il faut se lancer dans la réalisation elle-même, qui fait l'objet aussi de beaucoup de travail avec les architectes, les scénographes, etc.
Oui, d'autant que ça a changé de lieu.
D'autant que ça a changé de lieu, oui, tout à fait.
Les auditeurs qui avaient connu le musée de la Vielle dans le château de Montluçon, ils retrouveront beaucoup de vielles d'ailleurs, hein, parce qu'on va en parler tout à l'heure, des collections, mais au pied du château en fait.
Voilà, oui, on a bougé de 300 mètres à peu près. Voilà. Donc le visiteur de l'ancien musée de la Vielle ne sera pas dépaysé, il n'aura pas de problème pour trouver le MUPOP.
superbes vielles qui nous font revenir aux origines du MUPOC, le musée des musiques populaires de Montluçon, dont nous allons parler aujourd'hui au cours de cette émission qui était, pour les plus âgés d'entre nous, le musée de la vielle dans le temps. Alors nous avons entendu le groupe Tandem avec deux morceaux, Opa et Turbulence Bleue. Alors Tandem, ce sont de magnifiques filles à la vielle, Annelies Foy et Laurence Pinchmaille, et Léonore Grolemund au violon, et le garçon de la bande, qui n'est pas mal non plus, à la contrebasse, Stéphane Arbon. Alors, le MUPOP, c'est le musée des musiques populaires. Éric Bourgognon, c'est quoi votre définition des musiques populaires? C'est quoi les musiques populaires?
Alors, les musiques populaires, c'est à la fois très simple et très compliqué. Populaire désigne tout de suite une relation avec la société de leur temps. Hein, nous, on entend populaire non pas au sens de la classe populaire, ce qui serait extrêmement restrictif, mais au contraire au sens de la popularité. Donc c'est la popularité d'un phénomène social, on parle d'un sport populaire, d'une voiture populaire, etc. Donc c'est cette notion de succès. Et de succès massif, hein. C'est-à-dire c'est pas marginal du tout comme phénomène. Donc c'est ces musiques qui ont eu à un moment donné, qui peut être plus ou moins court ou plus ou moins long, un très grand succès. Alors une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit, puisque le problème c'est de savoir pourquoi, d'où vient cette popularité. Alors il y a deux grands axes. Il y a le fait que c'est des musiques qui s'adressent toujours au corps, c'est-à-dire qu'ils sont là pour susciter le mouvement physique. Donc, leur principal usage, ça va être la danse, au sens très large du terme, toutes sortes de danses, codifiées ou pas codifiées du tout. Et puis, la deuxième chose, c'est que leur popularité vient du fait que c'est toujours des musiques qui ne font pas l'objet d'un apprentissage préalable, en conservatoire, en enseignement académique, théorique, etc. C'est toujours une appropriation par des non-musiciens. Ce qui fait que cette appropriation, d'une part, elle est extrêmement vive, et d'autre part, elle est très massive. On peut prendre toutes sortes d'exemples, mais enfin, le meilleur exemple, c'est la naissance, l'éclosion de ces millions de petits groupes de rock au début des années 60, par des adolescents qui avaient 15-16 ans, qui ne connaissaient pas la musique, qui connaissaient à peine le rock, qui n'avaient pas de guitare électrique, mais qui voulaient faire du rock et qui voulaient jouer de la guitare électrique. Donc, on s'y met sur le tas, et puis, on progresse. Donc, c'est les deux grandes définitions que nous avons retenues pour définir la popularité de ces musiques.
Exactement comme le cornemuseux qui commençait à faire de la cornemuse en jouant sur une paille de sel et la prenait le doigté de cette manière-là. Absolument. Alors, est-ce que vous voulez bien nous présenter les collections qui sont présentées dans le musée?
Oui, alors les collections, pour ceux qui connaissaient le musée de la Vielle...
Parce que 3500 instruments quand même, je crois.
Oui, alors c'est 3500 objets musicaux. Oui, puisque objets musicaux. C'est une des originalités de ce musée, mais qui est liée à son thème, on fait appel à des objets qui ne sont pas que des instruments de musique, loin de là. Hein, puisque on a deux grands parcours, le parcours musical et le parcours instrumental. Dans le parcours instrumental, l'élément principal, c'est l'instrument de musique. Par contre, dans le parcours musical, l'instrument de musique n'a pas le premier rôle. Hein. C'est toutes sortes d'objets musicaux. Par exemple, on parle...
Alors, le parcours instrumental, commençons par faire
celui-là.
Alors,
le parcours instrumental, il présente, en gros, d'une manière relativement classique, d'un point de vue muséographique, les trois grosses collections de Montluçon, c'est-à-dire la collection historique des vielles, donc commencée en 1957, les cornemuses, arrivées au début des années 90, et puis les guitares électriques. Alors, on aborde un petit peu l'accordéon, un petit peu les percussions, mais c'est vrai que l'accent est mis sur ces trois grosses collections, puisque ça correspond aux grosses collections du musée. Dans le parcours musical, donc, il y a toutes sortes d'objets, puisque c'est un parcours qui va contextualiser la musique, on fait appel à des objets qui sont soit des objets musicaux, mais qui ne sont pas des instruments. Je prends un exemple, tous les appareils de diffusion du XXe siècle, les jukebox, postes de TSF, etc. Soit qui évoquent des lieux où se tenait cette musique, par exemple un parquet de bal, une salle de répétition punk, etc. Qui ne sont pas des instruments à proprement parler. Et puis on fait même appel à des objets qui ne sont, alors là, pas du tout musicaux. Par exemple, tout l'électroménager du début des années 60 pour montrer que la guitare électrique, la guitare s'électrifie, mais en réalité c'est tout le quotidien qui s'électrifie.
Oui.
Thank you.
plaire, dites-le promptement. Frottez-la en plein hiver, moi qui vous aime tant. Passez la nuit entière, sous la pluie et le vent. Enfin, que faut-il faire? Dites-le moi vraiment. Tadilalo, nanalalo, tadilalalo. Tadilalo, nanalalo, tadilalalo. Que faut-il pour vous plaire? Dites-le promptement. Faut-il en plein hiver, moi qui vous aime tant, plonger dans la rivière pour votre amusement? Enfin, que faut-il faire? Dites-le moi vraiment. Que faut-il pour vous plaire? Dites-le promptement. Faut-il en plein hiver, moi qui vous aime tant, la tête la première, se jeter dans les temps? Enfin, que faut-il faire? Dites-le moi vraiment. Que faut-il pour vous plaire? Dites-le promptement. Faut-il un cœur de pierre, attendre aussi longtemps? Je m'en irai sur mer, s'il faut pas tous les temps. Enfin, que faut-il faire, moi qui vous aime tant?
Faut-il faire de la Chavanet? On est bien avec eux, c'est superbe cette musique. Ce sont vos voisins, Eric?
Oui, tout à fait. Oui,
voilà,
oui.
Et c'est vraiment très très beau. J'espère que vous les inviterez souvent à jouer dans le musée, parce que au milieu de tous ces instruments, ils ont vraiment leur place.
Oui, oui.
Alors, faites-nous visiter ce musée. Nous arriverons à Montluçon, nous nous garons. Où on peut venir en bus, même à plusieurs, parce que vous avez l'habitude aussi de faire des visites commentées de groupe. Voilà, on arrive dans l'entrée, que se passe-t-il?
Alors, on prend son billet.
Oui.
Jusque-là,
c'est normal. C'est cher,
c'est
chez
vous? C'est ordinaire. 7 euros plein tarif, 4 euros tarif réduit.
Ça va. Ça, surtout qu'on peut y passer du temps. Ou on peut même se laisser enfermer la nuit, parce que si on veut écouter et voir tout ce qu'il y a...
Oui, oui. Ben, pour donner une idée à nos auditeurs, il y a 4 heures de musique, si on veut tout écouter. Déjà, sans parler du reste. Alors là où, une fois qu'on a pris son billet, c'est moins ordinaire que dans les autres musées, on vous donne un casque qui est relié à un petit boîtier. Alors, c'est pas du tout un guide de visite, c'est pas un audio guide, c'est simplement un instrument qui va vous permettre d'écouter la musique dans le musée, puisque la moindre des choses dans un musée consacré à la musique, c'était de faire entendre de la musique et dans de bonnes conditions.
C'est pas une évidence dans tous les musées consacrés à la musique.
Alors nous, on est parti de ce postulat-là, bien sûr. Bon, alors, je vous passe toutes les hypothèses techniques qu'on a pu faire. On est arrivé à ce système. Donc le boîtier, en fait, est un système pointeur, c'est-à-dire qu'on le pointe vers des objets dans le musée. Ça peut être des instruments, des photos, des pochettes de disques, des affiches, etc. Et on en écoute le contenu sonore. Et on a tenu, évidemment, à passer des morceaux entiers compte tenu du fait que quand vous visitez un musée de beaux-arts, on ne vous présente pas une moitié de tableau. Mmh. Donc la musique est un objet muséographique à part entière. C'est-à-dire que ce n'est pas détaché des objets qu'on montre. Voilà, donc on visite principalement, musicalement, avec ce système-là.
Et ce qui fait que chacun a vraiment sa visite individuelle.
Complètement. Chaque visiteur se fait son propre programme.
Voilà. Voilà. Et ce qui veut dire qu'on peut revenir plusieurs fois, parce que chaque fois, on peut découvrir des choses différentes, parce que je pense qu'en une seule fois, on n'écoute pas tout.
Oui, bien sûr. Ben, comme tous les grands musées, quand vous allez au Louvre, vous ne pouvez pas visiter le Louvre. En une fois, ni en une journée, c'est pas possible. Alors voilà, donc ça c'est le principe d'écoute de la musique, d'approche de la musique dans le musée. Il y a aussi des temps de spectacle, et puis il y a aussi dans certains espaces des jukebox, au moment où les jukebox arrivent, dont on peut se servir d'une manière interactive, c'est-à-dire avec des écrans tactiles, toujours avec le système de casque. Voilà, donc on a essayé de coller au plus près des modes de diffusion à chaque époque réelle de la musique, en dehors des formations instrumentales, bien sûr. Mais enfin, ce qui caractérise le XXe siècle, c'est quand même ça, c'est que la musique se met à être diffusée en l'absence de musiciens, par le disque, la radio, la télé, et puis à la fin, Internet.
Il y a beaucoup d'images aussi.
Alors, il y a beaucoup d'images. On utilise beaucoup d'images. Le but a été de restituer vraiment ce que c'était que ces différentes musiques et leurs usages. Voilà. Et on a notamment pensé aux plus jeunes. Les plus jeunes n'ont pas souvent vu une fanfare, par exemple. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une fanfare. Ils ne savent pas à quoi servait une fanfare, quel était le rôle social d'une fanfare. Donc c'est tout ça qu'on restitue par des images d'époque. Donc on a fait beaucoup de recherches et on a travaillé avec un réalisateur de films qui nous a fait les montages de ces films. Donc il y en a de toutes sortes. Il y en a donc sur les fanfares, il y en a sur le bal, notamment le bal Musette, il y en a sur les grands festivals pop des années 70.
Le festival pop, c'est dans une salle avec un écran géant.
Voilà, avec écran géant pour restituer le gigantisme de ces rassemblements humains et musicaux. Il y a effectivement ces très beaux films de collectage réalisés en 65 sur le plateau de l'Aubrac.
Par CNRS et notamment Jean-Dominique Lajoux.
Tout à fait, qui sont des films qu'on pourrait penser a priori un peu spécialisés et en fait qui touchent tout le monde. Hein. C'est des films très émouvants.
Et c'est la vie de tous nos ancêtres.
Voilà, complètement. Et le fait que ces gens soient habillés tout à fait normalement, avec leurs bottes en caoutchouc, on est très loin de l'image folklorisante de ces musiques. Ça touche énormément, ça émeut énormément les visiteurs, même ceux qui ne sont pas du tout sensibilisés à ce genre de choses.
Le bus rouge qui nous a entraînés dans son petit bal. Alors là, c'est pareil, dans ce groupe, il y a plein d'instruments de musique qu'on retrouve au Mupop à Montluçon, dont nous sommes en train de faire le parcours en compagnie de son conservateur Éric Bourguignon, qui a eu la gentillesse de venir depuis Montluçon à France Bleu, Pays d'Auvergne. Alors Éric, on a pris son billet, on a son casque, on a son boîtier, on est parti pour le parcours musical. Qu'est-ce qui se passe? On passe où? On voit quoi?
Alors, le parcours musical, il est constitué, en fait, de toute une série de répertoires musicaux marquants, donc très populaires, qui sont présentés au public d'une manière tout simplement chronologique.
D'accord.
Donc, on commence par ce qu'on appelle, nous, les musiques du monde rural, qu'on appelle plus généralement les musiques traditionnelles. Donc, monde rural, c'est-à-dire que ça correspond à des musiques d'une France encore complètement rurale, pas de grands centres urbains, encore pas d'industrie, donc on est avant 1850, avant le démarrage de l'ère industrielle. Donc on fait le tour de ces musiques, de leur diversité, de leur usage, etc. Ensuite, on arrive au contraire dans la France industrielle avec les fanfares, le phénomène des fanfares. Donc qu'on traite, nous, entre 1880 et 1914, tout en sachant bien entendu que leur existence se poursuit, comme on le voit dans les films. Donc là, c'est le lien direct avec justement l'industrie qui fabrique les cuivres et ce nouveau régime qu'est la République qui s'instaure définitivement dans les années 1880. Ensuite, on aborde, alors c'est la séquence vraiment centrale, le bal, qui est en France, évidemment, le bal musette.
Tout le monde danse. Là,
et tout le monde danse.
C'est d'ailleurs un musée, sachez, chers auditeurs de France Bleu Pays d'Auvergne, que si vous allez au Moupop, vous ne pourrez pas vous empêcher de danser au dancing. C'est pas possible de faire autrement.
Voilà, ça n'est pas interdit par le règlement intérieur. Donc le bal musette, donc qui va des Auvergnats de Paris jusqu'au début des années 70. Et puis, ensuite, séquence de rupture, c'est l'arrivée du rock'n'roll et des guitares électriques. Donc ça, c'est évidemment une séquence aussi importante. Et puis, on arrive dans les années 70 avec la pop musique. Et dernière séquence de ce parcours, on arrive dans les années 80. Avec là un des objets les plus surprenants du musée, c'est pas des objets qu'on voit couramment dans les musées, c'est un local de répétition punk de la banlieue parisienne,
qui est complètement reconstruit,
qui est remonté en fait, ici
dans son jus
absolument, avec les mégots, les cigarettes, etc., les bouteilles de bière, etc. Et ce local, eh bien, il est entouré des grands phénomènes musicaux de cette décennie. C'est le disco, c'est le rock toujours, et puis toujours sur la diffusion, on aborde la question de la libération de la bande FM qui a vraiment porté ces musiques à partir de 82, la fête de la musique, le passage de l'analogie au numérique. Le fil rouge de ce parcours, c'est un des fils rouges, c'est les instruments de diffusion, comme je le disais tout à l'heure.
Tout à fait. Alors, il a beaucoup de succès, ce musée, beaucoup, beaucoup de visiteurs.
Oui, oui.
Vous pensez encore que ça va bien se développer, parce que, en fait, il a ouvert quand, c'est cet été?
Alors, il a ouvert très symboliquement le jour de la fête de la musique, donc le 21 juin dernier.
Voilà, donc voilà. Il est tout nouveau, et donc, je pense qu'il y a encore plein de gens qui ne savent pas que ce musée...
Voilà, oui, tout à fait. Et donc, il y a un deuxième parcours, oui, dont je n'ai pas parlé, qui est le parcours instrumental, on en a parlé tout à l'heure, donc il présente les instruments, et une salle qui vient de s'ouvrir sur la musique numérique. Donc là, au contraire, on est sur le contemporain, ce qui nous a paru intéressant et important, parce que c'est probablement une révolution majeure qui est en cours et qui est à ses débuts.
Alors, comme info pratique, vous allez peut-être nous donner le numéro de téléphone du musée.
Oui, alors d'abord, le musée est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Notre jour de fermeture est le lundi. Alors, en période hivernale, c'est-à-dire jusqu'au 15 mai, on est ouvert de 14h à 18h. Et à partir du 15 mai jusqu'au 15 septembre, on fait une journée continue de 10h à 19h.
Voilà. D'accord.
Donc il est en plein centre-ville de Montluçon, dans le quartier ancien, dans le quartier médiéval. Il est facile à trouver et bien fléché. On peut se garer aisément autour. Et donc le numéro de téléphone, c'est le 04 70 02 19 60. Le prix d'entrée est 7 €. Plein tarif, 4 €, tarif réduit, etc.
Et est-ce que vous avez des événements particuliers qui sont programmés?
Oui, alors
que le musée est un événement en soi.
Voilà, alors le principe, c'est qu'on a tout un cycle de conférences, de projections cinématographiques, puisque le cinéma s'est beaucoup intéressé aux musiques populaires.
Donc vous avez un site sur lequel on peut aller chercher tous ces renseignements.
Tout à fait.
Alors comme d'habitude, vous le savez maintenant, vous téléphonez à l'AMTA si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, ou vous venez nous voir 01 route d'Enza à Rion, ou alors vous allez sur notre site www.anta.fr. Alors moi, je vais vous donner un rendez-vous qui est lié au dernier morceau que nous allons écouter avant de nous quitter. C'est le rendez-vous du Mardi Gras chez les Braillots. Donc samedi 22 et dimanche 23 février chez les Braillots à Saint-Bonnet près Rion au Gamounet. Il y a un stage de bourrée à 3 temps avec Clémence Cognier et Cyril Etienne pour les débutants et avec les deux frères champions Eric et Didier pour les confirmés. Évidemment, le soir, le samedi soir, le 22, donc au Gamounet, il y aura le bal du Mardi Gras avec les nombreuses formations braillaudes. J'ai nommé Bardane, Comrade, que nous allons écouter tout à l'heure, L'Armoire Bleue et Airbag. Alors, allez-y déguisés, c'est un conseil, parce que c'est encore plus rigolo comme ça. Et puis, si vous n'avez pas envie de faire à manger, eh bien, téléphonez pour réserver votre repas. Au menu, c'est de la potée, c'est à 19h. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance, on va se quitter, Eric, si vous permettez, avec une belle bourrée d'un des groupes braillots Comrade. Nous écoutons La Montagnarde de Pongibaud. Eh bien, à dimanche prochain, sans faute, et passez un bon dimanche. Au revoir.
Merci, au revoir.
Maridado, tu namur tem passarai.